for me, one of the most difficult thing to understand your ideas is your comment on semiotics. For me, it seems to me that it is very, very complex to understand. So, could you explain your interpretation of semiotics in very simple way, right? Because you differentiate many, many types of semiotics.
Yeah.
Just like semiotics post-significant.
Right.
Semiotics significant and semiotics semiotics melee and like that.
C'est quoi le troisième?
This is not so correct. It's a mixed semiology.
Oui.
Yeah.
Semiology mixed. Mais alors?
It is very difficult to understand for me.
Bon, on va prendre des choses très simples. Une structure, par exemple la structure de la matière, ou la structure d'une roche, une structure cristalline, véhicule des formes qui se reproduisent. Et ces formes, elles sont véhiculées par les atomes eux-mêmes. On peut donc dire que la forme et la substance sont totalement inhérentes l'une à l'autre. Voilà un premier niveau. Avec la vie des plantes et des animaux, la forme est transmise par des codes, des lignes de code, qui sont distinctes. Des chaînes chimiques. C'est-à-dire que vous avez tout un métabolisme de chaînes, d'ARN, d'ARN, qui fabrique les molécules complexes, qui fabrique les systèmes de reproduction, etc. Vous avez une autonomie du code. Donc vous voyez que quand on passe de la structure au code, il y a séparation, autonomisation d'un mode de codage. Quand vous adoptez les comportements humains, les outils, vous avez des modes de transmission qui ne dépendent pas du code génétique. Vous avez des apprentissages, des mémoires qui peuvent procéder par le langage, par les technologies, etc. Et bien là, c'est encore une autre séparation. C'est ce que j'appelle une sémiotique. La différence d'une sémiotique et d'un code, c'est que les sémiotiques, elles utilisent des systèmes de signes, par exemple de façon entièrement linéaire, en référence avec des systèmes d'interprétation, alors que le code lui-même, il n'est pas forcément linéaire. Le fonctionnement du code, la syntaxe du code, participe du mode d'encodage. Tandis que là, vous avez la distinction entre ce que Chomsky appelle une syntaxe, et puis, les éléments manipulés par cette syntaxe, les contenus, l'expression et le contenu. Parce que l'expression et le contenu, dans le code génétique, sont eux-mêmes liés. L'autonomisation d'une syntaxe, c'est ce que j'appelle une machine de signes. Seulement des machines de signes, il y en a de toutes sortes. La machine des signes de la musique, c'est pas la même que la machine de signes de la technologie pour faire des sabots, ou pour faire des équations. Pour faire de la chimie, c'est pas la même machine de signes que celle qui sert pour payer les échanges, pour faire de la monnaie. Dans certains cas, vous avez des machines de signes qui fonctionnent sans produire le phénomène dit de signification. C'est par exemple l'argent, les équations algébriques, c'est la musique. Il peut y avoir des significations, mais à côté. Il y a la sémiotique texte de Beethoven, et puis il y a ça me fait penser à la symphonie pastorale, ça me fait penser à les petits oiseaux. Mais ce que vous pensez quand vous pensez aux petits oiseaux dans la symphonie pastorale, c'est pas écrit dans le texte, c'est pas dans la sémiotique. La sémiotique, elle est insignifiante. Les équations, peut-être les équations, vous allez vous en servir pour fabriquer un pont, mais les équations, elles fabriquent pas de pont, elles. Ce sont les équations. C'est l'application qui donne une signification. Mais l'algèbre est insignifiante. Et puis vous avez le langage humain qui mélange les chaînons insignifiants, les phonèmes, les lexèmes, etc., avec des significations. Or, les sémiologies signifiantes, que j'oppose donc aux sémiotiques insignifiantes, c'est en même temps une autre type d'opération. C'est une opération de pouvoir. C'est une façon de construire une machine de pouvoir, de s'emparer de toutes les autres codes, de toutes les autres sémiotiques. Tu dois penser comme l'empereur. Tu dois penser comme le despote. Si tu ne penses pas comme un despote, ce que tu penses doit s'adapter, doit être compatible avec l'encodage signifiant donné. Toutes les significations singulières doivent se plier, s'adapter aux significations dominantes. Ça, ce sont les sémiotiques signifiantes qui impliquent toujours la mise en place de formations de pouvoir particulières les unes aux autres. D'où l'importance capitale dans l'histoire des sociétés, des religions. Car les pouvoirs politiques et économiques seraient inconcevables sans les pouvoirs religieux qui interprètent comment articuler les différents types de pouvoir. Comment articuler le fait que tu es un enfant de telle classe d'âge, tu es un homme, tu es une femme. Comment interpréter les passages, les initiations d'un système à un autre. Tu produis pour le Dieu, pour le despote, pour toi-même, pour ta famille. Tout ça est rendu possible sur le plan économique et politique que parce qu'il y a une machine à interpréter les significations. Et au départ, d'abord une machine religieuse.
In short, it's a theory of the unconscious machine. Your semiology is mainly to deal with the unconsciousness machine.
Oui, parce que dans les sémiologies signifiantes, on a toujours affaire à du social et à du pouvoir. Mais dans les sémiotiques insignifiantes, on a affaire à la vérité des choses elles-mêmes. Les signes encodés dans l'ordinateur, dans la télématique, ils travaillent directement à même les processus physico-chimiques et les agencements technologiques, les machines, etc. On a donc une sorte de double description au niveau de ce que Marx appelait les rapports de production et au niveau des forces productives elles-mêmes. Les rapports de production sont toujours pris et prisonnières. Les sémiologies signifiantes. Les forces productives, elles ont toujours quelque chose à voir avec les sémiotiques insignifiantes. Mais de leur articulation des deux dépend précisément de ce que peut être un traitement de l'inconscient machinique. L'inconscient, il est machinique à ce niveau et il est anthropologique à ce niveau. Ça, disons, c'est l'inconscient freudien. Et ça, c'est l'inconscient machinique. Là, il y a des personnes, là, il y a des machines. Mm-hmm. On retrouve l'opposition molaire-moléculaire.
Oh. Very interesting.
Et avec tout ça, vous allez faire un livre, vous n'allez pas faire un article de journal.